Donc n'hésitez pas maintenant.
Une question dans le prolongement de la fin de l'intervention sur la liturgie. La non liturgie, c'est le break, j'imagine, pour les.
La langue liturgique.
Oui, la langue liturgique.
Alors, la langue liturgique est relative, en fait, à la tradition de l'Église à laquelle on est rattaché. Donc, si on est rattaché à l'Église de tradition grecque, c'est-à-dire le patriarcat œcuménique, en principe, c'est le grec. Mais dans l'Église de diaspora, il existe des paroisses dans la langue locale. Donc, ici en France, depuis les années 1925, on célèbre en français tout en étant attaché au patriarcat œcuménique. Il en est de même dans les autres patriarcats. Ça dépend, je dirais, de leur ancienneté. Les églises, par exemple, de tradition russe, ont célébré ici une liturgie, la première, me semble-t-il, en 1927, pour être précis. C'était d'ailleurs le jour de la Saint-Martin, le 11 novembre 1927. Donc vous voyez que c'est très ancien. Et cela a été réclamé par l'évêque de l'époque, parce qu'il voyait, et c'était seulement la première génération, donc les enfants des Russes émigrés, il voyait que les enfants ne comprenaient pas le slavon, et donc se désecclésialisaient. Et donc il a dit, il faut passer au français dans certaines paroisses, ce qui a été fait. Pour les paroisses qui sont composées de Russes ou d'Ukrainiens, enfin en général, ou de Moldaves, ou de gens en général de l'ex-Union soviétique, on utilise traditionnellement le slavon. Par exemple ici, on célèbre en slavon pour la paroisse, mais c'est également, je dirais, le lieu de culte de l'Institut qui, lui, célèbre en français. Donc, vous voyez, on passe très facilement d'une langue à l'autre, et parfois même, dans le même office, on peut utiliser différentes langues. Par exemple, dans les provinces, dans la province française, vous avez des paroisses qui, la plupart du temps, célèbrent en français. Mais lorsqu'on arrive à la fin de la liturgie avec le Notre Père, en général, une coutume veut que l'on récite le Notre Père autant de fois qu'il y a de langues différentes dans la communauté. Donc on entend parfois 8 fois le Notre Père dans les différentes langues des fidèles qui sont présents.
L'encens, peut-être, enfin, vous savez, il y a beaucoup de fumée.
Il y a beaucoup d'encens.
Il y a beaucoup de fumée, beaucoup d'encens.
Alors, quand c'est un mauvais encens, c'est de la fumée, oui.
C'est un parfum.
Alors, parfois, c'est un bon encens et c'est très agréable, quand il est à la rose, par exemple. Symboliquement, c'est le signe de la présence de l'Esprit-Saint. C'est surtout l'importance du parfum, la bonne odeur. Donc effectivement, il est important que dans la liturgie, il y ait des moments où le diacre, en principe c'est le rôle du diacre, il fait le tour de l'église et il encense à la fois les icônes et les personnes. C'est donc une sorte de bénédiction.
Est-ce qu'il y a des pèlerinages ?
Il y a des pèlerinages. Les pèlerinages, c'est une tradition très importante dans l'orthodoxie. Donc des pèlerinages vers des lieux marqués par un martyr, par exemple, ou la présence des reliques d'un saint. Je dirais que les reliques ont un rôle assez analogue à celui de l'icône, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui focalisent la prière, parce que les reliques sont les restes corporels de quelqu'un qui a été sanctifié. Or, on souligne très fortement la communion qui a lieu avec la grâce divine et qui fait que une personne donc qui est déclarée sainte a été dans un tel état de communion que même son corps a été marqué par la grâce divine. Et on a très régulièrement justement des cas de restes corporels qui sont littéralement parfumés. Donc de manière incompréhensible, ou des corps incorrompus, par exemple.
Où
On a le cas, par exemple, d'un prêtre qui était dans les années 20, qui était l'ordinaire d'une paroisse dans les Alpes, et dont le corps a été retrouvé des décennies plus tard, complètement intact. Et il a été ensuite canonisé par le patriarcat de Constantinople, parce qu'on a fait une enquête et on s'est aperçu que ce prêtre avait été un homme tout à fait irréprochable. On s'est souvenu qu'il parlait très peu à ses fidèles, mais on se souvient d'une chose, c'est qu'il ne disait jamais de mal de personne. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un homme très simple, très humble.
Donc chaque patriarcat a ses propres saints.
Alors, chaque patriarcat, chaque église autocéphale a les saints particuliers qu'elle canonise, mais il y a une couche, je dirais, de sainteté catholique ou universelle qui est propre à toutes les églises. Par exemple, un saint comme Saint Nicolas n'appartient pas à un patriarcat particulier, même si Saint Nicolas a vécu en Turquie actuelle, c'est-à-dire que il est dans le patriarcat œcuménique, en réalité, il appartient à toute l'orthodoxie et je dirais à toute la chrétienté. Oui.
Quels sont les éléments théologiques qui vous séparent radicalement des autres chrétiens?
J'aime pas beaucoup le mot radicalement, mais, mais vous avez raison de poser la question. C'est-à-dire que si on me mettait le couteau sous la gorge et qu'on me demandait qu'est-ce qui vous sépare au fond de l'Église catholique et des églises protestantes, ben, je dirais pour l'Église catholique, fondamentalement, le dogme de Vatican I, c'est-à-dire...
La querelle du filioque.
Non, le dogme de Vatican I, je dis bien. Non, mais si vous me laissez terminer, je vais en parler. Hein. Je vous en prie, le filioque, on va en parler. C'est vrai. Mais moi, vous voyez, je mettrai au premier plan, d'abord le dogme de Vatican I, qui considère que l'évêque de Rome a une juridiction, c'est-à-dire un pouvoir particulier, sur tous les évêques et tous les fidèles de par le monde. Et ça, c'est quand même un problème pour la conscience orthodoxe. Qu'il y ait un rôle particulier pour l'évêque de Rome, on n'en dit ce qu'on vient pas. Je dirais que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un premier dans la communion des évêques, qu'il y ait une responsabilité particulière, mais qu'il ait un pouvoir de juridiction. Hein, et c'est ça qu'utilise le dogme de Vatican I. Pastor Aeternus, hein, la constitution est très claire là-dessus, ça pose un problème pour la conscience de l'Église d'Orient. On n'a jamais connu ça au premier millénaire, dans la communion des Églises, vous comprenez? Donc il y a vraiment ce qu'on peut appeler une innovation. Il y a un développement, une intensification, si vous voulez, d'une centralisation de l'Église romaine qui n'est pas compatible avec la foi de l'Église ancienne. Maintenant, deuxième point que vous évoquez, le fameux filioque, effectivement, il pose problème, c'est-à-dire la confession de la foi commune du credo de Nicée-Constantinople, que l'on récite dans les églises traditionnelles occidentales, à savoir que l'Esprit Saint procède du Père. Les chrétiens d'Occident ont ajouté, à partir du 7e siècle progressivement et du 11e officiellement à Rome, ont ajouté que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et donc laisser entendre que la troisième personne de la Trinité prend sa source non pas seulement dans le Père, la personne source des deux autres, mais également dans le Fils. Et donc il y a une confusion, si vous voulez, entre l'ordre théologique, c'est-à-dire ce qui est vrai éternellement dans le mystère divin, et ce qui est valable dans la mission, entre guillemets, c'est-à-dire, je dirais, dans la dispensation du salut, où effectivement l'Esprit est envoyé non seulement par le Père, mais aussi par le Fils. Mais ce n'est pas le même ordre, et il y a une confusion entre les deux ordres. C'est ça le problème. Mais je pense que, depuis les travaux des théologiens occidentaux, on est en bonne voie de résoudre ce problème du filioque. On a bien avancé. On ne peut pas dire qu'il est résolu, mais on est en bonne voie. Par contre, sur la question de l'ecclésiologie, on a beau se réunir, évoquer le premier millénaire de communion, il est très difficile de voir des avancées. Bien que le pape actuel, le pape François, soit extrêmement, je dirais, en avant dans le sens d'une conciliation avec l'orthodoxie, lorsque lui-même réclame davantage de synodalité dans la vie de l'Église catholique. La synodalité, c'est quoi? Ben, c'est aller contre l'idée qu'un évêque s'impose seul. pour l'ensemble de l'Église. Donc ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais pour l'instant, on n'en est pas plus que là. Vous voyez ? Je dirais que c'est ça les deux grands obstacles dans la communion avec l'Église catholique. Maintenant, avec les traditions protestantes dans leur pluralité, alors je ne parlerai pas des évangéliques, quoiqu'il y ait beaucoup de points communs paradoxalement avec les évangéliques, dans leur confession de la foi trinitaire par exemple, ou de la christologie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le gros problème, c'est la reconnaissance des ministères et la reconnaissance de l'épiscopat. C'est le gros problème qui nous sépare avec les traditions protestantes, avec une exception particulière pour le monde luthérien. Bon, je ne veux pas développer davantage pour vous laisser éventuellement...
Cette différence avec l'Église traditionnelle, enfin l'Église européenne, ça veut dire que le Père et le Fils, la deuxième différence que vous avez dit, c'est le même chez vous ou il y a une différence
Donc, dans le christianisme occidental, le Père et le Fils, ensemble, donnent l'existence à l'Esprit-Saint. C'est ça le fameux filioque.
D'accord. Le Père et le Fils.
Le Père et le Fils, conjointement, donnent son existence à l'Esprit-Saint. Autrement dit, l'Esprit procède du Père et du Fils. Tandis que nous, traditionnellement, nous reprenons ce qui a été confessé au Concile œcuménique. Lors du Concile œcuménique de Chalcédoine, il était dit qu'il fallait suivre scrupuleusement le credo de Nicée et de Constantinople, autrement dit des deux premiers conciles œcuméniques, où on s'est tous mis d'accord, chrétiens d'Orient et d'Occident, et où on a dit l'Esprit-Saint procède du Père. Point.
Du Père,
c'est tout. Et donc, les chrétiens occidentaux, d'abord Charlemagne, et ensuite la papauté au XIe siècle, ont ajouté « et du Fils ». Et ont commencé les polémiques entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Pour être précis, au IXe siècle, lors de l'évangélisation de la Bulgarie, les missionnaires francs venant du monde latin et les missionnaires byzantins juste à côté ont commencé à se confronter en remarquant qu'ils n'avaient pas le même credo. C'est là que ça a commencé.
C'est le mot « et » qui devient un problème.
Ben, c'est pas seulement « et », c'est qu'on ajoute une personne, on ajoute le Fils comme source de l'Esprit. Alors que normalement, le Fils n'est pas l'auteur de la personne de l'Esprit. Il n'y a qu'une personne source dans la Trinité, c'est le Père. Et c'est pour ça qu'il y a un seul Dieu. C'est parce qu'il y a une personne source. Pardon, je crois que, comme vous voulez.
Je voulais savoir s'il y avait des conversions, en fait, parce que je me dis que quelqu'un qui...
Des conversions, c'est-à-dire
à l'orthodoxie, par exemple, quelqu'un
qui n'a pas d'origine...
Qui n'a pas d'origine forcément chrétienne, mais qui veut devenir, par exemple, orthodoxe. Ça peut être assez compliqué, parce que c'est quand même lié... à une nationalité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut choisir plus...
Non, c'est extrêmement simple. On a comme illustre exemple un intellectuel français qui s'appelait Olivier Clément, qui est d'ailleurs l'auteur d'un des ouvrages là, dans la bibliographie, et qui était un intellectuel de la région de Montpellier, qui était d'origine athée, et qui a fait une recherche intérieure, qui s'est retrouvé à Paris, et qui, par hasard, a entendu parler des ouvrages d'un certain Vladimir Lossky, justement, un russe, qui était dans ce milieu d'intellectuels déracinés, et qui a fait sa connaissance, et qui est devenu, qui a pris le baptême chrétien dans l'orthodoxie, par suite de ces circonstances. Voilà, et je dirais que ça s'est fait très facilement, dans un milieu, donc celui des Russes émigrés ici en France, d'abord donc dans le patriarcat de Moscou, et donc qui s'était rattaché à partir de 1931 au patriarcat de Constantinople. Donc c'est un milieu, je dirais, d'intellectuel. Alors c'est vrai que ça compte beaucoup le milieu dans lequel vous tombez, parce qu'il y a différents types de paroisses. Il y a des paroisses très simples. Il y a des paroisses d'intellectuels, vous voyez, C'est très très variable. Donc c'est les circonstances. Mais je ne dirais pas qu'il y a des paroisses purement ethniques. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être les derniers arrivés, peut-être oui, les paroisses roumaines, parce que ce sont des petites paroisses, alors là elles sont peut-être plus ethniques. Mais en tout cas, il n'y a pas de paroisse qui soit fermée. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que n'importe quel orthodoxe qui arrive par exemple dans une paroisse roumaine, il dit « je suis orthodoxe géorgien » ou « je suis orthodoxe français » ou « je suis orthodoxe russe », pas de problème, vous pouvez communier.
Oui. En même temps, si vous allez rue d'Arru...
Alors rue d'Arru, il y a deux paroisses rue d'Arru, pour être précis, hein, c'est la paroisse qui autrefois était celle de l'ambassade de la Russie impériale, et qui est devenue donc la paroisse de tradition russe, mais rattachée au patriarcat œcuménique. Donc en haut, vous avez une paroisse traditionnelle en slavon, dans laquelle il y a beaucoup de gens du monde ex-soviétique, et en bas, vous avez une paroisse francophone, donc, où tout est en français depuis les années 50. Pardon ?
Je ne connais que celle d'en haut. Et c'est vrai,
oui, bien
que
sûr.
Vous, celle d'en haut, vous ne vous sentez pas... Enfin, si vous n'êtes pas russe, vous n'êtes quand même pas...
Effectivement.
Extrêmement à l'aise.
Effectivement, on n'est pas forcément à l'aise. Ou alors, certains, justement, sont épris d'une sorte d'esthétisme.
Voilà.
C'est merveilleux, c'est du slavon, on ne comprend rien, mais c'est tellement beau.
Voilà, voilà.
C'est tellement agréable à entendre et voir les icônes et l'encens et tout. Et vous voyez ? Donc, non, mais je connais aussi des personnes, vous savez, des personnes qui ont été authentiquement converties en participant à une liturgie en haut où elles ne comprenaient rien, mais où elles ont eu un grand choc intérieur et qui après sont devenues des personnes complètement engagées dans l'Église orthodoxe, qui ne sont pas restées en haut, mais qui sont restées dans l'orthodoxie et de manière fidèle et totalement engagée. Donc il est très difficile de donner des choses générales, vous voyez, chaque cas est particulier.
Et la nouvelle église russe qui a été construite
Quai Branly.
Est-ce que ça change la donne un peu pour l'église orthodoxe de France? Est-ce que c'est un acte politique? Est-ce que ça a un impact globalement?
C'est manifestement un acte politique, puisqu'elle a été construite par le gouvernement russe, et que c'est une chapelle d'ambassade, qui se veut en même temps cathédrale. Donc je l'appelle avec une certaine plaisanterie la chapelle cathédrale, puisqu'elle se veut cathédrale, mais en même temps c'est une chapelle d'ambassade officiellement. Ça veut dire que l'État, par exemple, ne peut pas faire des retenues sur cette chapelle lorsque l'État russe, par exemple, a une dette par rapport à un particulier. Mais c'est une technique, je dirais, du gouvernement russe à travers le monde. C'est-à-dire, dans toutes les grandes villes, il construit une chapelle d'ambassade où peut rayonner ainsi l'église orthodoxe russe. Et donc, oui, du patriarcat de Moscou, on est bien d'accord. Et donc, je ne dirais pas que cela change grand-chose à la donne générale, parce que le patriarcat de Moscou n'a pas un très grand rayonnement en tant qu'institution, hein, je ne dis pas les Russes, je dis le patriarcat de Moscou comme institution, n'a jamais eu un très grand rayonnement en France. Parce qu'à partir de 1930, comme je le disais, lorsque le patriarche de Moscou, là-bas en Russie, a demandé un serment d'allégeance, évidemment avec un pistolet sur la tempe, a demandé de par le monde aux émigrés russes un serment d'allégeance à l'État soviétique, eh bien immédiatement les évêques ont répondu « Désolé, on doit vous quitter, on va ailleurs ». Et donc ils ont demandé la protection du patriarcat de Constantinople. Vous voyez ? Et donc il y a une petite minorité qui est restée fidèle à Moscou, mais uniquement parce que c'était une église persécutée, pour ne pas l'abandonner. Donc en général, c'est surtout des Russes du patriarcat œcuménique qui ont, je dirais, lancé le dialogue à la fois avec les autres chrétiens, les autres religions et la société moderne. Oui ?
J'ai deux questions. La première, où est formé votre clergé au sein de chaque église ou chaque commune ? Et vous disiez tout à l'heure, en parlant de la communion, il n'est pas possible de communier dans une autre église que celle à laquelle on appartient.
Ah non, j'ai dit le contraire exactement.
D'accord.
On ne s'est pas compris. Non, non, je voulais dire justement le contraire, c'est-à-dire que cette union dans les sacrements fait qu'on peut communier à partir du moment où on se présente comme orthodoxe, hein, bien sûr, dans n'importe quelle église orthodoxe.
Les catholiques ne pourraient pas.
Les catholiques ne peuvent pas, puisqu'ils ne sont pas en communion, en pleine communion avec l'orthodoxie. C'est pas le même statut, hein, j'ai bien conscience que le statut des catholiques dans l'orthodoxie n'est pas le statut des orthodoxes dans l'église catholique. Il y a une sorte de dissymétrie, mais c'est une dissymétrie de la théologie. C'est-à-dire que la théologie orthodoxe n'est pas la même que la théologie catholique. Donc ça explique cette dissymétrie. Et par rapport à votre première question, je dirais que les clercs, ça dépend des différents diocèses. Un certain nombre viennent des églises mères, c'est-à-dire qu'ils sont formés, on va dire, en Roumanie, en Grèce, en Russie, et ensuite ils sont délégués ici, ils vont vivre dans la diaspora. Ou alors ils sont formés ici. Alors il y a deux possibilités, s'il s'agit de prêtres, par exemple, français d'origine, soit français de souche, soit d'origine orthodoxe, soit ils sont formés sur le tas, soit ils sont formés à l'Institut Saint-Serge. Et à l'Institut Saint-Serge, il y a différents types de formations, soit la formation longue, auquel cas vous devez faire 3 ans pour avoir une licence, soit par correspondance. Alors par correspondance, vous pouvez faire le cycle de licence en théologie, mais à votre rythme. Donc vous prendrez, s'il le faut, 4-5 ans, pour faire un cursus équivalent au cursus à temps plein.
Il y a combien d'ordinations par an ?
Oh là là, alors là c'est difficile de répondre à cette question. Je serais bien en peine de vous dire, je dirais une dizaine d'ordinations, quelque chose comme ça. Mais vous savez, on est vraiment une toute petite minorité, hein. Oui, je vous en prie.
Le cursus d'études au niveau orthodoxe est plus court que le cursus au niveau catholique.
Écoutez, je ne sais pas, ça dépend ce qui est comparable. Hein. Pour les séminaires, ça doit être probablement la même chose, 2-3 ans. Mais ici, ce n'est pas un séminaire. Hein. Ici, c'est un institut de théologie. Mais qui tient lieu de séminaire, mais je dirais de séminaire d'études supérieures, parce que ce n'est pas simplement des matières pratiques, il y a des matières de fond, c'est-à-dire de connaissances, de l'histoire, des sacrements, de théologie. Et donc, encore une fois, pour avoir la licence en théologie orthodoxe, il faut 3 ans.
C'est
7 ans pour... Non, non, non.
C'est 3 ans, non ?
Non, non, là c'est 3 ans, mais je dirais que il n'est même pas obligatoire d'avoir un diplôme. Il y a des cas particuliers de personnes qui connaissent bien l'orthodoxie de par exemple, un engagement familial, et qui font que, sans diplôme, elles pourront être ordonnées diacre ou prêtre. Donc, vraiment, chaque cas est particulier. Il est difficile de généraliser.
Est-ce qu'il y a une dévotion mariale, comme chez les catholiques romains, ou l'orthodoxie ?
Alors, une dévotion mariale très prononcée, tout à fait.
Pas du tout parlé.
C'est vrai que j'en ai pas parlé, bon, c'est faute de temps. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une dévotion mariale, oui, absolument. Alors, simplement, on n'a pas les deux dogmes qui ont été proclamés au XIXe et XXe siècle, donc de l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Mais, dans une certaine mesure, la Dormition est un dogme donc, qui est très proche de celui de l'Assomption. Et l'Immaculée Conception est tributaire d'une vision du péché originel qui est très augustinienne et très sombre, et dont doit être épargnée en quelque sorte la Vierge Marie. Et comme l'Église orthodoxe ne partage pas le présupposé catholique et en général occidental sur le péché originel, à savoir que l'homme n'est coupable du péché d'Adam. Elle n'a pas besoin de préserver ou de mettre à part la Vierge Marie. Et donc c'est pourquoi elle ne partage pas ce dogme de l'Immaculée Conception. Donc vous pourrez me dire, voilà une occasion d'une séparation supplémentaire avec l'Église catholique. Je pense que fondamentalement, mais c'est ma vision de la théologie, ça n'est pas un dogme trop problématique dans la mesure où c'est un dogme d'abord intellectuel, doctrinal. Il ne découle pas, à mon sens, d'une différence d'ordre spirituel. Je pense que fondamentalement, il y a la même attitude de vénération vis-à-vis de la Mère de Dieu, aussi bien chez les catholiques que chez les orthodoxes. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une séparation sérieuse.
Est-ce que ceux qui défendent les chrétiens d'Orient défendent à la fois la cause des orthodoxes et des catholiques ?
Il faut leur demander, mais je pense, a priori, parce que les chrétiens d'Orient, effectivement, il y a à la fois des orthodoxes et il y a aussi des chrétiens d'Orient rattachés à Rome, ceux qu'on appelle des uniates. Et donc... toutes ces populations chrétiennes sont profondément soudées, solidaires, face aux menaces de disparition de la part d'intégristes, et puis qui sont liées aussi à la politique occidentale, où malheureusement, ils sont vus souvent caricaturés comme les complices des croisés, vous voyez. Donc malheureusement, ils sont victimes parfois de certaines politiques occidentales. Alors qu'ils sont tout aussi légitimes en Orient que leurs frères musulmans. Ils sont tout aussi anciens. Oui.
Vous avez souligné le lien qu'il y a entre Église et État dans certaines autocéphalies.
Tout à fait.
Et pointé le fait que dans certains pays, il y a des involutions et des durcissements autour de. Ritualisme, la vision nationale, etc., la fermeture. Il semble aussi qu'il y ait des évolutions plus positives vers des choses que nous on appellerait l'ordre de la laïcité, par exemple en Grèce. Si vous pouvez nous en parler un peu, ça
fait. Oui, tout à fait. C'est une initiative dont avait parlé depuis quelques années déjà le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras. Et donc qu'il compte reprendre ces temps-ci, c'est-à-dire aboutir à un État qui serait vraiment neutre au plan religieux. Puisque vous savez que c'est un cas un peu particulier, c'est que l'État grec, de par son histoire, je dirais par la formation de l'État néo-hellénique en 1830, c'est un État à 98% orthodoxe. Alors, ça ne favorise pas tellement, je dirais, le dialogue avec l'altérité. Parce que d'abord, l'altérité, on ne la connaît pas. Alors, il y a une toute petite minorité catholique traditionnelle dans les îles des Cyclades, mais elle est vraiment tellement petite qu'au fond, l'orthodoxie est quasiment une des données de la nation grecque. Et donc, vous avez cette initiative, bienvenue à mon sens, du Premier ministre, qui est de laïciser, d'une certaine manière, l'État, de façon à avoir un État neutre et faire disparaître progressivement cette notion de religion majoritaire qui existe dans la constitution de l'État grec. Alors, évidemment, l'Église... je dirais, freine et va déployer d'un point de vue institutionnel toutes ses ressources pour empêcher une telle mesure, mais à mon sens, la mesure sera prise.
Il y a un enjeu fiscal.
Alors, il y a un enjeu fiscal, sans aucun doute, parce qu'il est vrai que l'Église possède des propriétés importantes, mais l'Église paye déjà des impôts, hein. Contrairement à ce qui est véhiculé, et l'Église participe très largement en Grèce aux efforts pour soutenir les pauvres et les SDF qui sont affectés par la crise terrible, comme vous le savez, qui touche la Grèce depuis presque une décennie.
Est-ce
n'y a aucune incompatibilité donc, entre l'organisation des églises autocéphales et la séparation entre Église et État, en fait, du point de vue de l'orthodoxie.
À mon sens, aucune incompatibilité, non. Au contraire. Normalement, si vous voulez, le modèle, c'est la symphonie byzantine. Et la symphonie byzantine a été caricaturée comme un césaropapisme, c'est-à-dire l'idée que le chef de l'État devenait le chef de l'Église à Byzance. Mais c'est totalement faux. Parce qu'il y a toujours, justement, il faut lire l'ouvrage de Gilbert Dagron, hein, le grand professeur au Collège de France, spécialiste de Byzance, qui a écrit un livre tout à fait éclairant là-dessus, et qui montre que tout au long du christianisme byzantin, hein, de 1000 ans de civilisation byzantine, il y a toujours une tension entre le pouvoir qui appartenait à l'empereur et qui s'occupait des choses terrestres, et le pouvoir du patriarche. Autrement dit, il y avait deux pôles, toujours. Alors que dans le monde latin, je dirais, il n'y avait qu'un pôle. Et ce pôle, c'était quoi ? Ben, c'était le pape qui a fini par triompher. C'est-à-dire que le pape, à partir de Pépin le Bref, est devenu un chef d'État, comme vous le savez, qui était à la fois un chef d'État important en Italie et en même temps le chef de toute l'Église. Donc il y avait deux registres, en quelque sorte. On n'a pas quelque chose de comparable à Byzance, on a toujours la dualité. Et dans cette dualité, il y a un équilibre qui se cherche. Alors bien entendu, souvent, très souvent, c'est l'empereur qui cherchait à liquider le pouvoir et l'indépendance du patriarche. Et il y avait des patriarches qui étaient persécutés. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la modernité, dans l'actualisation de cette vision théologique, on peut et on est en droit d'espérer un dialogue de l'Église en place avec l'État. C'est-à-dire pas forcément quelque chose qui soit du registre de la laïcité à la française, où les institutions doivent être complètement absentes et où règne, je dirais, la vision individuelle. C'est-à-dire chacun croit ce qu'il veut, bon, c'est très bien, ça j'ai rien contre. Mais on peut imaginer aussi que les communautés religieuses puissent dialoguer avec la société, sans qu'elles empiètent, bien entendu, sur le terrain du politique. Hein. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'il y ait des députés orthodoxes à l'Assemblée nationale, absolument pas. Mais en tout cas, que les communautés religieuses puissent être représentées dans le dialogue, je dirais, de la vie sociale quotidienne, moi, ça ne me paraît pas scandaleux. Et donc on a un autre type de laïcité, par exemple en Allemagne, en Italie, qui n'est pas exactement le modèle français, qui lui est un peu exceptionnel.
Oui, mais en même temps, sur les débats comme sur la bioéthique, vous disiez tout à l'heure que vous étiez très en retrait, que vous n'aviez pas de vrais messages à faire passer, seulement des repères qui devaient être pris par les uns et par les autres. Mais...
Ce n'est pas exactement ça ce que je voulais dire, c'est qu'on n'avait pas des messages... aussi objectivés et durs et tranchés que ceux que l'on pouvait observer, par exemple, du côté du magistère romain. Voilà. C'est un autre style. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message. C'est-à-dire qu'il y a des grands principes. Hein. Bien sûr, a priori, l'Église orthodoxe est hostile à l'avortement, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va condamner, par principe, les situations d'avortement. Parce qu'elle sait très bien que les situations... sont relatives à des personnes et qu'il y a toujours des contextes. Et dans les contextes particuliers, il faut discerner. Donc c'est ça, si vous voulez. C'est... Et donc, on va voir en fonction des questions qui se présenteront dans les années à venir. Par exemple, les questions de bioéthique. Là, évidemment, les églises sont consultées, donc l'orthodoxie sera consultée parmi les autres églises. En général, il n'y a pas vraiment de grande différence de l'orthodoxie par rapport aux autres églises, je dirais.
Un grand merci, professeur Stavroux. Merci beaucoup. Merci. Alors, le père Desmoutins se propose de faire visiter maintenant l'église.
Tout à fait.